La première, restons curieux.
En 1900 et quelques, vous aviez toutes les élégantes qui rentraient ici.
J'ai découvert la vie. Je voulais partir dès l'âge de 4 ans.
Tout le monde crée son chemin.
Mais on se reverra encore une fois pour raconter encore un tas d'histoires.
Tout le monde a une histoire.
Bon après-midi à toutes, bon après-midi à tous et bienvenue sur la première à Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire se déclinera en deux épisodes consacrés aujourd'hui et demain à Farida Zouj. Elle vient de sortir un album autoproduit. Vous aurez l'opportunité pendant ces deux émissions d'en entendre quelques extraits. Alors c'était l'opportunité pour nous d'aller rencontrer cette jeune femme, de s'intéresser à son parcours, à sa vie, à ses envies, à ses passions et vous les entendrez, elles sont assez nombreuses, ses passions. Mais on commence bien sûr quasiment comme toutes les fois, par cette question devenue traditionnelle, quelles furent pour elle les couleurs de l'enfance ?
Les couleurs de l'enfance, elles sont mitigées, je vais dire. À la fois quelque chose de très joyeux, quelque chose de très changeant aussi, en fait, puisque dans l'enfance, il y a la grande migration. La mère et la fille quittent l'Algérie, débarquent à Bruxelles, donc c'est quand même une certaine révolution.
Et vous aviez quel âge ?
Moi, j'avais 3 ans.
Et des souvenirs de ce moment-là ?
Moi, je me souviens de mon premier jour d'école à la maternelle, où je faisais un dessin, enfin donc un scrabucha, et un enfant m'a dit « Tu fais un scrabucha ?» Et j'ai dit « Oui », mais je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Puis un autre m'a dit « C'est la lune !» J'ai dit « Oui !» Je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Donc voilà, c'est des grosses ruptures et en même temps pour un mieux-être, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc à la fois la séparation, quitter le père, quitter le frère, quitter le pays, quitter l'environnement qui était le mien, enfin, pendant ces 3 premières années de ma vie, et puis débarquer dans de l'inconnu, mais avec tout le côté... moi, j'ai découvert cet inconnu comme un enfant, avec tout l'émerveillement, puis les gens étaient gentils, on était bien accueillis, enfin, donc tout allait bien, tout allait aller vers un mieux. Donc c'était ces deux couleurs, la joie et la tristesse, sans doute la nostalgie, mais en tout cas l'évidence d'un mieux.
Ça, c'est presque un parcours à l'envers de ce qu'on entend en général. En général, c'est le père qui quitte. Et après, c'est la mère qui rejoint. Comment se fait-il que ce soit votre mère qui ait quitté l'Algérie ? Enfin, si vous avez envie de le dire.
Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, elle avait envie de quitter son mari, parce qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Et puis, il y avait un prétexte, c'est que sa propre mère, qui était algérienne et française, bénéficiant de la double nationalité, était hospitalisée à Avignon. Donc, en fait, le motif officiel, c'était d'aller rendre visite à sa mère, qui est morte, en fait. Donc, on est arrivé trop tard. Et l'autre raison, c'était de quitter son mari, et c'était le prétexte pour que le voyage soit possible. Sinon, elle n'aurait jamais eu l'autorisation, donc elle n'est plus jamais retournée là-bas. Voilà.
Et la Belgique, pourquoi ?
Alors, c'était d'abord Avignon, parce que le frère aîné vivait là, et que c'est lui qui avait accueilli la mère pour son hospitalisation, mais la sœur aînée vivait à Bruxelles. Et puis, c'était peu de temps après la signature des accords belgo-marocains, donc il y avait un appel de main-d'œuvre en Belgique, et donc elle a débarqué à Bruxelles. Et elle a trouvé du boulot tout de suite.
Vous vous souvenez des premiers boulots, du premier boulot de votre mère ?
Ah oui, oui, c'était... Donc, elle était servante interne dans une famille protestante, et elle travaillait là, et on vivait à demeure. Donc, j'avais une famille d'adoption, et toute mon intégration s'est faite à travers ce filtre-là, en fait. Donc, j'ai vraiment bénéficié d'un encadrement privilégié, je vais dire. Vivre à Uccle, dans une maison bourgeoise, être accompagnée pour l'école... et puis être la mascotte d'une famille où les enfants sont universitaires. Donc c'était un peu la petite mascotte, le petit rayon de soleil qui débarquait dans une maison familiale comme ça, qui avait pris ses habitudes et qui en découvrait d'autres, avec une mère qui avait 25 ans, donc était aussi encore jeune et pleine de joie de vivre aussi, parce que voilà, l'Eldorado était là, tout se passait bien, elle avait trouvé du boulot, elle avait eu raison de prendre le risque de ce voyage et de se retrouver avec une nouvelle vie qui commençait très bien.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Okay. cause you don't understand. Everything you have done, why is everything so wrong? This is a happy end, come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake.
Yael Naïm et New Soul, retour à ce Tout le monde a une histoire en compagnie de Farida Azouj, à qui j'ai demandé si à l'école, quand elle était petite fille, elle se sentait étrangère.
À l'école, une direction d'école super. Vraiment, le gars super sympa. J'étais très très intégrée. C'est là que j'ai commencé à chanter à la chorale, etc. Par contre, au niveau des enseignants, du personnel, la garderie après l'école, etc., bon, ben là, il y a le fait qu'on fait tâche, quoi. C'est la seule famille marocaine dans le quartier. C'est l'étranger dans le sens inconnu, hein. C'est une classe bourgeoise privilégiée, enfermée sur des valeurs et des habitudes assez particulières, avec un choc culturel. Bon, donc une petite fille pas méchante, mais pas habillée comme les autres, pas coiffée comme les autres. Donc une discrimination insidieuse, jamais de méchanceté ouverte, quoi, mais... Oui, une intégration est difficile pour les autres, plus que pour nous qui avons été encadrés et intégrés finalement dans la vie quotidienne d'une famille belge. Donc le contraste était fort parce que sans doute je m'attendais à ce que ce soit partout pareil puisque j'étais bienvenue dans cette famille belge-là. Pour moi, le Belge était quelqu'un de bien et de sympa, mais la petite Marocaine, c'était pas pour les autres Belges forcément quelqu'un de bien ou de sympa, ils ne connaissaient pas encore, donc voilà. Après, on peut difficilement généraliser. Il y a des familles qui étaient plus ouvertes que d'autres. Assez naturellement, je me suis retrouvée un peu plus proche des quelques filles qui étaient issues de milieux populaires dans cette école lucloise. Et voilà, mais bon, tout ça s'est traversé sans... Enfin, maintenant, c'est parce qu'on met le projecteur dessus en posant la question, mais je veux dire, ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé.
Quels sont les rêves de la petite fille? Déjà de chanter, vous dites déjà je vais dans la chorale, je chante. Donc si vous dites déjà, c'est qu'il y avait déjà cette envie, ce goût, cet amour de la musique, de la chanson.
Oui, je voulais être chanteuse. Je passais tous mes loisirs à descendre la cage d'escalier parce qu'il y avait un miroir en face de l'escalier. Et puis je chantais devant le miroir et je faisais ma star toute seule à 6 ans dans l'escalier. Ça, c'était, Puis après, il y a eu Clo-Clo et les Claudettes, donc avec mes copines.
Vous étiez Claudette.
On était Claudette. Et il y en avait une qui faisait Clo-Clo. Donc oui, j'ai toujours eu envie de chanter, puis je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça, sans prendre de cours, en étant soit à la chorale, soit à la maison.
Alors, ce rêve de petite fille, il est vu comment par la maman?
Elle a pas tellement le temps de s'occuper des rêves de sa petite fille, elle est occupée. Donc on n'en parle pas trop. Par contre, en sixième primaire, on va au centre PMS pour l'orientation scolaire. Hein. Et donc là, la petite fille, elle dit qu'elle va devenir chanteuse. Et on lui dit qu'elle doit aller en professionnel parce qu'elle a aucune ambition. Et que donc professionnel, ça lui suffira.
Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille?
Elle va à UCLE 1.
Ça veut dire quand même qu'il y a autour de la petite fille des adultes qui sont en rupture, quoi, qui sont en résistance par rapport à ça. Parce que UCLE 1, ce n'est pas les professionnels.
Non, pas du tout. Mais bon, justement, la famille dans laquelle ma mère travaillait nous a conseillé de ne pas suivre les conseils du PMS. La commune ouvrait une nouvelle école professionnelle, avait besoin de recruter des élèves, et donc ça s'est un peu décidé apparemment comme ça. Mais ceci dit, UCLE 1, c'était beaucoup trop dur pour moi. Je ne m'en sortais pas. Je faisais encore plus tâche que dans la petite école communale. J'étais pas dans un environnement où j'avais les mêmes codes culturels que les autres. Donc c'était un peu une espèce de petite violence comme ça, mais... inconsciente. Après coup, je me rends compte de la difficulté de s'intégrer, de trouver des repères et de s'épanouir dans un environnement où on ne connaît rien. Enfin, on fait tâche dans tout. On ne se comporte pas comme il faut. Donc on a l'impression qu'on a tout faux.
Malgré la famille?
La famille, ça se résume quand même encore qu'à ma mère à ce moment-là.
Alors malgré la famille adoptive ou
qu'on ne voit plus, voilà. Okay. On s'est un petit peu autonomisé. Le temps a passé. J'ai 12 ans, donc voilà, on ne vit plus là. Ma mère est un petit peu obligée de se débrouiller. On vit avec, cette fois-ci, mon frère, ma mère et moi. Donc, on est une famille marocaine à Bruxelles. On a eu 3 ans d'encadrement au début. Et puis après, on vole de nos propres ailes quand même. Donc, le milieu scolaire et le rapport famille-école, à cette époque-là, encore moins qu'aujourd'hui, je dirais. Donc,
Et le milieu amical, à ce moment-là, il ressemble à quoi?
Ma mère a quelques amis gardés depuis ses tout débuts, parce qu'elle a fait des cours, elle a suivi un petit peu des cours pour s'intégrer ici, etc. Donc elle a quelques connaissances. Et moi, c'est des copines de classe, une ou deux. Un espace réduit, je dirais. Des relations privilégiées avec deux, trois familles, mais pas, ça ne fait pas beaucoup de monde autour, en fait. C'est assez, on n'arrive pas à reconstituer le village ici, en tout cas. D'autant que, à Uccle, ça a été une grande question. Ma mère s'est toujours demandé est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille du côté d'Ixelles, Saint-Gilles ou Molenbeek pour être moins isolée. Puis en même temps, elle se disait, mais il vaut mieux que je reste par ici pour les écoles, pour mes enfants. Donc, elle a toujours été un peu déchirée comme ça.
Comment trouver l'équilibre entre effort et plaisir de vivre? Comment nourrir un destin? Vous, mes ancêtres, n'en dites rien. Comment cueillir un mari sans enfreindre l'interdit? Comment bousculer la peur, les préjugés sur le malheur? Comment bercer nos enfants en évitant de trahir tous nos tourments? Mais dites-moi, comment faites-vous? Tenir debout. Oui, dites-moi, mais comment faites-vous? Oui, dites-moi, comment tenir debout? Comment taire l'inconscience et les douleurs d'inconséquence? Comment vivre l'harmonie dans le silence et dans l'oubli? Comment finir le massacre des masses âcres du milieu? Comment penser les béances d'une plaie d'humanité? Comment cacher l'innocence et comment la préserver contre l'errance? Mais dites-moi, tenir debout. Mais dites-moi, mais comment faites-vous? Oui, dites-moi, comment tenir debout?
Avec Farid Azouj, on a parlé de la tribu, on a parlé de l'environnement. Je lui ai demandé si à l'adolescence, elle avait eu cette envie de se recréer cette tribu.
Non, à l'époque, pas du tout. Aujourd'hui, bien, je reconstitue ma tribu après coup. À l'époque, non, je suis jeune et j'ai d'abord envie de ne plus faire tâche. J'ai envie de ressembler à tout le monde. J'ai envie qu'on me fiche la paix, qu'on m'apprécie comme je suis. Et donc, je veux ressembler à l'environnement dans lequel je suis. Donc, je m'occidentalise, moi, clairement. Et à un tel point que je romps avec la famille. Donc moi, je quitte l'univers familial et je décide de m'intégrer encore plus et de réussir ma scolarité et de devenir une fille qui va réussir à l'école et qui va s'autonomiser, et tant pis pour les valeurs qu'on lui avait demandé de respecter. Pas que je les respectais pas, mais en tout cas j'avais envie d'être autonome, indépendante, d'être une femme égale de l'homme et pas une femme soumise. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait suffisamment de raisons de changer, puisque le modèle dont je venais n'était pas gagnant dans l'environnement dans lequel j'étais. Donc je pense que j'étais très motivée à sortir d'une espèce de marasme dans lequel on était enfermé. Donc moi, j'ai rompu, j'ai fait mon chemin de mon côté en réussissant à l'école. C'était ma voie de salut et c'est là-dedans que j'ai investi.
Dans le même temps, vous avez cette chance malgré tout d'avoir ce modèle de la mère qui, elle, a aussi, avant vous, rompu. C'était pas si courant que ça à l'époque qu'une femme dans ce milieu-là quitte son mari.
Tout à fait. Je pense qu'elle m'a sans doute transmis ce côté révolte par là-même, mais en même temps, elle, en grandissant dans cette rupture, elle s'est dit que c'était trop dur, donc elle ne voulait pas. Elle aurait voulu que je revienne un petit peu en arrière pour réconcilier le tout et pour réparer ce qu'elle avait brisé aussi. Mais je n'ai pas voulu être porteuse de cette réparation-là, en tout cas pas sous la forme qu'elle voulait.
Alors, une adolescente qui veut réussir ses études, qui veut s'occidentaliser, qui veut s'intégrer, et qui choisit quoi alors comme études?
J'ai commencé par les humanités sportives. Donc j'ai fait l'éducation physique et je me destinais à être prof de gym. Et en tout cas, c'était l'école dans laquelle, enfin moi, ça a été une révélation. Quoi. Le club de gym d'abord et l'école en éducation physique après, ça a été la liberté pour moi, ça a été ça. Ça a été de m'exprimer, d'avoir des cours d'expression, d'avoir des cours de gym, d'avoir des cours de danse, d'avoir des cours d'animation, des cours de psychologie, des cours de vidéo. Donc d'être comme ça dans la polyvalence, ouverture sur le monde. Et puis on devenait porteur d'un projet parce qu'on allait être des animateurs, on allait être des enseignants. C'était un peu comme une espèce de mouvement de jeunesse, mais pendant les heures d'école. Moi, j'adorais ça, donc voilà, je me suis vraiment éclatée là-dedans. J'ai eu des petits soucis de santé 2 années de suite, donc ça m'est apparu assez clairement que j'allais pas devenir prof de gym. Je me suis cassée la jambe, j'étais handicapée pendant 1 an, j'ai dû recommencer mon année. L'année d'avant, j'avais fait des hernies inguinales, enfin donc porter des poids, etc., ça n'allait plus être vraiment possible. Et donc j'ai fait la kiné 1 an. Et puis après, en fait, je voulais, mais je n'osais pas faire la psycho. Donc après 1 an de kiné, j'ai quand même fait la psycho. Et je suis partie à l'UNIF faire mes 5 années de psycho. Et là aussi, c'est passé vraiment très vite, avec beaucoup de plaisir. Et, voilà.
Et matériellement, comment ça se passe si vous êtes en rupture avec votre famille? Ça veut dire des études, mais ça veut dire travailler sur le côté pour les payer.
De toute façon, ça veut aussi dire aide sociale, bourse, job, oui, tout le temps, tous les congés scolaires. Donc j'ai fait de l'animation avec des jeunes depuis l'âge de 14 ans. Et puis serveuse dans des restaurants, et puis babysitting, et puis voilà, j'ai fait un peu tous les boulots. Et pendant les études à l'UNIF, pareil, je travaillais comme serveuse le vendredi, samedi, et voilà. J'avais la bourse, oui, j'avais une bourse d'études, j'avais un job étudiant aussi à l'UNIF, où je travaillais pour le secrétariat social, où j'étais élève assistante, voilà, je me débrouillais comme ça.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career.
When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
John Lennon et Working Class Hero, c'est Farida Zouj qu'on retrouve.
Est-ce que, a posteriori, vous diriez qu'il y avait une forme de rage ?
Non.
Non ?
Non, non, vraiment pas. J'étais très docile. En fait, je me suis réveillée très tard, j'ai pris conscience très tard de ce que j'avais traversé. Quand j'ai pris la mesure de ce qui m'était arrivé, parce que je me suis un petit peu effondrée en bout de course, quand tout le combat était fini, quand tout a été réalisé, c'est comme si subitement, c'est comme quand on part en vacances et qu'on attrape la crève, quoi. Quand tout le combat était fini, subitement j'ai réalisé tout ce que je venais de traverser. Mais au moment où je traversais, c'était mon lot. J'avançais, je devais faire ça et je le faisais. Je me posais pas de questions. J'avançais. J'avalais ce qu'il fallait avaler pour déblayer, pour avancer. Voilà, je traversais ça comme ça. Je me rendais pas compte.
Il y avait une volonté d'exercer la psychologie dans quel milieu? Ou dans quel contexte? Vous vous souvenez ça? Vous aviez envie de quoi? D'un cabinet privé, travailler avec des enfants, d'aller plutôt en institution, en clinique? C'était quoi?
Ah non, pas du tout. Je savais qu'en tout cas que la santé mentale, je n'arriverais pas à y contribuer à l'intérieur d'une institution. Ça, c'est très très vite dans ma pratique en stage. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais travailler avec le groupe, donc j'ai pris clinique et sociale, donc j'ai fait la systémique après, donc travailler avec des familles. J'avais envie de comprendre le groupe, j'avais envie de comprendre les relations de groupe, j'avais envie de comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'ai fait un mémoire en ethnopsychiatrie, parce que j'avais envie de comprendre le migrant et les difficultés de cadre de référence culturelle, donc j'ai travaillé là-dessus, en fait. Et ça reste encore aujourd'hui mon centre d'intérêt, c'est le décodage culturel. Comment est-ce qu'on fait quand on vient d'ailleurs? Comment est-ce qu'on communique avec l'autre? Comment est-ce qu'on dépasse les frontières symboliques dans le rapport à l'autre? C'est vraiment ça qui me titille.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les choses se sont améliorées? Ou au contraire, les différences se sont cristallisées?
Il y a des deux. Il y a des deux, parce que je pense qu'il y a une telle fragilité chez tout le monde maintenant, parce que la vie devient difficile, vraiment. Enfin, elle l'est de plus en plus clairement difficile. Pour ceux pour qui c'est difficile, elle l'est de moins en moins pour ceux pour qui c'est pas difficile. Mais en tout cas, c'est comme si la fragilité d'une identité rendait le dialogue plus difficile. Et donc d'un côté, on a une société multiculturelle avec des gens qui sont habitués depuis très jeunes à fréquenter des étrangers et où je sens que ça se passe très bien. J'ai une sœur qui a 14 ans de moins que moi. Elle a fréquenté des jeunes de toutes les classes sociales et de tous les milieux culturels déjà à l'école. Et ça se sent, quoi. Il y a un vrai... Il y a des préjugés qui tombent parce qu'il y a une vraie expérience commune que moi je n'avais peut-être pas quand j'étais à l'école. Mais en même temps, comme on a plus à perdre chacun parce que les acquis sont plus difficiles à acquérir, justement, il y a une plus grande méfiance aussi. Donc il y a un espèce de double mouvement avec des groupes qui restent très proches les uns des autres au niveau culturel et puis d'autres Enfin, moi, ça m'étonne à 43 ans de parler à certaines personnes qui ont fait des études universitaires, et je suis la première Marocaine d'origine avec laquelle ils parlent. En 2007, je trouve ça surprenant, qu'ils n'aient jamais adressé la parole au-delà d'un rapport commercial, peut-être dans une boutique, avec une personne d'origine étrangère, et a fortiori une communauté qui est quand même sur place ici à Bruxelles depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, moi, je trouve ça étonnant que des gens de cultures différentes ne se soient jamais parlé dans une ville aussi cosmopolite qu'ici et n'aient jamais eu un contact un petit peu plus personnel, je dirais, avec quelqu'un d'étranger. Comment c'est possible de rester dans sa bulle et de ne pas parler à l'autre et de ne pas s'en approcher? Ça m'est étranger. Ça m'est étranger, vraiment.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre aride. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien.
Une histoire de 16 à 17 heures sur la première.
Dans Tout le monde a une histoire, c'est le parcours de Farida Zouche que nous découvrons aujourd'hui.
Quand vous étiez à l'UNIF, est-ce que vous vous sentiez étrangère ou pas? Parce que j'ai presque envie de dire qu'il y a une double stigmatisation. Parfois, il y a le fait d'être femme, et ça c'est vrai pour toutes les femmes, quelle que soit leur origine, et puis le fait d'être étrangère. Est-ce que vous avez senti ça, ou à l'époque, pas du tout?
C'était difficile d'oublier que j'étais étrangère, hein, quand même, avec le nom que je porte, et puis stigmatisée que je l'étais par mon appartenance sociale dans un milieu privilégié, quand même l'UNIF, ça reste un milieu privilégié, donc... on ne me l'a pas fait remarquer, je dirais, parce que là, c'est privilégié. Donc, ni les profs ni les élèves n'avaient, à mon égard, des comportements différents qui auraient pu me faire me sentir mal accueillie ou quoi. Non, ça, j'ai rarement vécu des vrais problèmes de racisme, comme certains jeunes en décrivent. Mais c'est difficile d'oublier. Alors peut-être que moi, je mettais plus la différence de sexe, enfin de genre, et la différence sociale, je mettais tout sur la différence culturelle. Mm-hmm. Je pensais que c'était parce que j'étais étrangère qu'il y avait des choses différentes. Je n'avais pas encore l'analyse pour dire qu'il y a peut-être d'autres éléments qui interviennent.
Aujourd'hui, vous l'avez?
Aujourd'hui, cette différence de genre. Aujourd'hui, je dis que c'est plus la catégorie socio-économique qui est déterminante que la catégorie culturelle. Je trouve que l'écart culturel est plus grand entre des gens qui ont toujours vécu dans des milieux financièrement privilégiés, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de problème psychologique. Mmh, Mais effectivement, on n'a pas la même réalité.
Est-ce que vous avez le souvenir de profs, d'enseignants, alors que ce soit dans le primaire le secondaire ou même l'UNIF, qui ont été pour vous fondateurs de quelque chose, qui ont été des catalyseurs? Est-ce qu'il y a eu des profs catalyseurs pour vous? Des profs qui vous ont peut-être fait avancer au moment où vous aviez envie de vous arrêter, parce que ça devenait un peu difficile, ou qui ont eu le mot qu'il a fallu au bon moment pour vous donner suffisamment de confiance pour rebondir?
Disons qu'il y a eu des profs qui, par leur façon d'être, sont devenus des phares pour moi, mais je n'ai pas eu vraiment de relations privilégiées avec des profs pendant le parcours. Contrairement, je pense à Amadi qui disait qu'il avait eu un prof qui l'avait rapproché de la bibliothèque et du savoir par ce biais-là. Je n'ai pas de souvenir d'un prof avec qui j'ai eu une relation privilégiée comme ça. Mais je me souviens qu'en humanité sportive, il y avait un prof qui donnait psycho, qui expliquait la psychologie de l'enfant. Et ça m'apparaissait comme... lui, il savait ce que j'avais besoin de savoir, quoi. Donc j'écoutais attentivement et c'était quelqu'un de chouette, mais pas spécialement avec moi. C'était avec le groupe et c'était très bien comme ça. Il y a eu une prof de français qui nous lisait des pièces de théâtre avec une interprétation extraordinaire et qui m'a vraiment donné le goût à la littérature. Et je m'appliquais, mais ce n'était pas réciproque. Elle ne m'appréciait pas spécialement. Donc mais c'était un modèle aussi, c'était un phare. Il y a eu un prof de maths qui ne comprenait pas que j'ai raté à UCLE 1, puisque j'étais très bonne en maths une fois que j'étais dans cette école où je redoublais mon année. Donc oui, des petits encouragements de ce genre-là, mais pas... c'était pas personnalisé, c'était pas un prof privilégié. I'm taking a break because I'm losing it again. I don't want to relate without you thinking I'm insane. Oh, it's the same, another train just sitting around with a record in my brain. And could have everything you wanted, but you would be still be wanting more. Cause the sun is always in your eyes. You search for stillness on a rock that's spinning round and round in your surprise. Take a break from all I know. Just sit back and let it flow. Then I'll find I've broken through to the light again. And every time I find I'm thinking about the things I want, and that is the time I have nothing to sing. Every time I find I'm thinking about things that don't matter, that is the time I see everything I want to know, Lord. Why has got to be so hard? One I know, Lord, why it's got to be so hard. Feel like a Muppet with a drunken puppeteer, but I'll survive, I will survive. Take a break from all I know. Just sit back and let it flow. Then I find I've broken through to the light again. Then I find I've broken through. To the light again. To the light again.
To the Light, Newton Faulkner. On poursuit le parcours de Farida Zouj. Parce qu'on en revient au rêve de la petite fille qui est de chanter, le rêve de l'adolescente aussi. Alors bon, le sport, kiné, puis psycho. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une petite lampe qui s'allume en disant « Tiens, et si finalement je faisais le conservatoire ?»
Je ne connaissais pas. Donc à l'époque, je ne connaissais pas le conservatoire. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas ce que c'était, on ne m'en avait jamais parlé. Par contre, à 14 ans, j'ai acheté ma première guitare et donc je suis allée à l'académie. Mais malheureusement, à l'académie, il n'y avait que des cours de guitare classique. Et c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Donc je ne savais pas encore comment ça s'appelait. Donc je gratouillais dans ma chambre et puis j'ai compris que je voulais faire de la guitare d'accompagnement. Mais il n'y avait pas de cours publics accessibles financièrement et géographiquement à l'époque. Donc voilà, j'ai rien fait du tout. Et puis petit à petit, vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris un accord, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis une chanson. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer de la guitare et à chanter avec ma guitare à 18 ans.
Diplôme en poche, qu'est-ce que vous faites ?
Diplôme en poche, je m'inscris aux ateliers de la chanson française. Parce qu'entre-temps, je découvre que ça existe. J'ai pas lâché prise. Et en même temps, je commence ma formation de thérapeute systémicienne. Et donc, je travaille à temps partiel dans un planning familial. Et voilà, petit à petit, je commence à gagner ma vie et à déterminer mon projet musical. Et donc, petit à petit, ça devient les deux premiers titres sur une compilation à la sortie des ateliers de la chanson française. Ça, c'est Photo d'identité en 93, avec mes deux premiers titres, Migration et Bulle pensée, qui naissent dans une première robe, on va dire.
Et que vous avez repris sur le CD actuel.
Voilà, et que je reprends, réarrangé autrement et revisité un peu dans le nouvel album.
Alors, il y a le principe de réalité qui fait qu'il faut travailler pour vivre. Et puis, il y a tout le reste. Il y a le rêve, il y a quand même cette appétence pour la musique. Il y a ce goût pour l'écriture aussi. Et pour le chant, il y a des moments où on a envie de tout laisser tomber, de se dire... Tant pis, je fonce, je tente le coup, même si c'est difficile dans un pays comme la Belgique. Il faudrait peut-être en parler aussi de ce contexte-là. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de se dire, non, allez, on y va, on se donne un an, deux ans, et on essaye par tous les moyens quand même, et puis on verra bien.
Mais moi, je l'ai fait une première fois en 96. J'ai trouvé un contrat au théâtre, et ça m'a aidé à savoir plus ce que je voulais. Mais c'était encore au début, j'étais encore jeune, et j'ai lancé un groupe. Et puis, à l'expérience, je me rendais compte que je n'avais pas les épaules assez larges pour le faire, donc j'ai renoncé. Après deux ou trois ans d'efforts, j'ai trouvé ça trop dur pour moi. Et puis, je n'avais pas le choix, il fallait que je gagne ma vie, et je ne la gagnais pas comme ça, c'était plus possible. J'avais eu un contrat au théâtre, j'en avais plus, donc je suis retournée travailler. Et puis, j'ai fait encore l'une ou l'autre intervention comme choriste, mais ça me manquait. Mais je ne savais pas comment construire un projet artistique et en même temps avoir une vie autonome financièrement. C'était difficile à marier ces deux choix-là. Jusqu'à ce que, à force de travailler, de peut-être prendre un peu plus confiance en moi, à savoir que je peux ne pas être forcément dans un salariat, mais peut-être dans d'autres formes de projets professionnels rémunérateurs, on va dire. Donc en 2001, j'arrête tout et je reprends l'idée d'un... En fait, c'est vraiment une crise. À ce moment-là, j'arrête de fumer, je change de mode de vie, je range deux, trois vieux fantômes dans la boîte, je me bats avec qui il faut au niveau symbolique pour tout remettre dans un espèce d'alignement où je me dis, ok, puisqu'il s'agit de vivre, d'accord, mais comment ? Et puis... je me regarde en face et je me dis, c'est bon, là maintenant, on change ça. Je me suis inscrite à un stage de clown, d'ailleurs, parce que je me suis dit, si t'as pas l'humour, tu vas pas t'en sortir. Donc, j'ai traversé tout ça comme ça. Et petit à petit, vraiment, alors en prenant le temps, en essayant d'apprendre la patience, parce que je suis quelqu'un de très impatient, et de me dire, petite pierre par petite pierre, tu avances et tu verras bien jusqu'où tu vas. Et donc, il a fallu 5 ans pour monter un groupe, choisir des morceaux, trouver l'habillage que je voulais y mettre, réunir des fonds personnels, mettre en place toute l'aide qu'il faut, parce que ça ne peut pas se faire tout seul, ça c'est clair. C'était une aventure que j'aurais jamais pu gérer toute seule, donc je me suis entourée d'amis. Et voilà, et c'est devenu un album, mais c'est 6 ans de travail autant de travail de composition, d'écriture, que de composition intérieure de ce que je suis vraiment.
C'est avec ma douceur que je veux te parler, que je cherche les mots pour te rencontrer, m'approcher de ta peau pour te murmurer le message que mes yeux ne pourraient dévoiler. C'est avec ma couleur, mes saveurs de là-bas, de l'autre côté de la mer où l'amour n'est pas, où le secret des hommes et des femmes est tenu sous la main d'une Fatma que je n'ai jamais vue. C'est avec toutes mes peurs que je suis arrivée parler, que je cherche les mots.